En fait, vous voyez, dans l'islam, quand l'homme désobéit à Dieu, il n'y a pas de séparation qui s'ensuit. Ça, c'est la question du péché. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de péché originel, hein, je vous l'ai dit hier. Donc, le péché de l'homme, parce que les hommes pêchent, selon l'islam aussi, comme pour nous. Mais cette désobéissance à Dieu, à la loi de Dieu plutôt, elle ne sépare pas de Dieu, elle ne lèse pas Dieu. Elle prive seulement celui qui contrevient à la loi, elle le prive de la récompense promise. La récompense promise aux croyants fidèles. La faute n'exige pas ni de réconciliation, ni de réparation, mais elle doit être effacée et pardonnée aussi. Alors, le Coran enseigne que tous les péchés peuvent être remis, quelle que soit leur gravité, sauf l'associationnisme. Mais le Coran ne distingue pas entre péché mortel et péché véniel. Je vous ai lu le verset concernant l'associationnisme hier, je ne me souviens plus. Moi, je l'ai sous les yeux, là, je vous le relis. Dieu ne pardonne pas qu'il lui soit donné des associés, alors qu'il pardonne à qui il veut les péchés moins graves que celui-là. Sourate 4, verset 48. Alors, pour obtenir le pardon des péchés, et pour calmer la rigueur de Dieu à l'heure du jugement, les fidèles musulmans donc doivent faire preuve de repentir. On appelle ça le retour à Dieu, qui est requis par le Coran. Dans la sourate 9, verset 112, et aussi sourate 66, verset 5. Le repentir consiste donc à regretter son péché, à réformer sa conduite de façon à ne pas récidiver. Et si un dommage a été commis à autrui, à réparer ce dommage. Mais voyez, là intervient une grande différence aussi avec le christianisme. Dans l'islam, le pardon, il n'y a aucun rite qui est prévu pour obtenir le pardon de Dieu. C'est une démarche qui peut se faire, s'accomplir, dans le secret du cœur du musulman qui se reconnaît pécheur. Mais il n'y a pas le sacrement. Dans l'islam, il n'y a pas de sacrement. Donc, on ne recourt pas à la médiation de quelqu'un, donc le prêtre pour les catholiques, pour obtenir le pardon des fautes. Dieu ne délègue pas ses pouvoirs. C'est pourquoi, donc, il n'y a pas le sacrement de confession ou de réconciliation dans l'islam. À ce sujet, un auteur de doctrine musulmane, Hamza Boubaker, en France, dans un traité d'islamologie, écrit que c'est incroyable que les chrétiens s'arrogent le droit singulier de fouiller les consciences et d'absoudre les péchés. Il y a des musulmans, que j'ai entendu, qui m'ont dit plusieurs fois, vos prêtres, ils pardonnent les péchés, mais pour qui se prennent-ils? Ils se mettent au niveau de Dieu. Vous voyez, c'est incompréhensible. Donc, encore une fois, pas de médiation. Alors on peut réfléchir à cette question. Un musulman qui a la conscience droite, qui sait qu'il a commis une faute, grave ou moins grave, et il désire le pardon de Dieu. Bon, alors dans son cœur, il peut demander pardon, il peut donc se repentir, bien entendu. Mais il va rester toute sa vie avec le poids de ce péché. Il ne sera jamais libéré. Il ne connaîtra jamais la réponse de Dieu à sa demande de pardon, puisqu'il n'a pas accès au sacrement. Vous voyez, il restera donc toujours dans l'incertitude de la décision de Dieu face à sa demande de pardon. Je vous assure qu'il y a des musulmans qui ont peur de Dieu à cause de ça. Et il y a des musulmans qui savent que nous avons le sacrement du pardon et qui nous envient ça. Et certains même se convertissent en découvrant ce sacrement, qui est l'expression plénière de la miséricorde de Dieu. C'est vrai qu'il y a le mot miséricorde dans le Coran. Au début de chaque sourate, il est question du Dieu miséricordieux. Mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le sens plénier que lui donne le christianisme. C'est une miséricorde arbitraire. C'est Dieu qui décide s'il veut pardonner ou ne pas pardonner. Voyez ? Alors, ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'observer le culte, hein, donc le culte d'adoration, de soumission et d'adoration. Alors, le culte musulman se déploie en 5 rites qu'on appelle les piliers de l'islam. Alors, le premier pilier, on en a déjà parlé hier, c'est... Donc, les piliers, retenez bien, ça n'a rien à voir avec le dogme. Hein. C'est, le mot s'applique au culte seulement. Donc, le premier pilier, c'est la profession de foi islamique. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. Deuxième pilier, c'est la prière rituelle que normalement les musulmans doivent réciter 5 fois par jour. Je vais vous dire ces prières. Ce sont des prières très courtes, hein, qui reprennent en principe des versets du Coran. Alors, il y a la prière de l'aube. La prière de l'aube. Qu'on récite dès la fin de la nuit noire. Si vous allez voyager un jour dans les pays arabes notamment, vous entendrez très tôt l'appel du muezzin, les mosquées. Alors ça dépend des pays, puisque ça dépend du lever du soleil aussi. En Égypte, par exemple, c'est à 4h30 du matin. Là, j'étais en juin, j'ai fait la différence, comparaison. J'étais en Égypte en juillet. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était à 4h30, et par contre en Turquie où j'étais le mois dernier, c'était plus tard, c'était vers 5h30, bon, ça dépend du soleil. Ce sont les autorités musulmanes qui déterminent. Donc la première prière de la journée, c'est la prière de l'aube. Ensuite il y a la prière de midi, c'est quand le soleil est au zénith, au plus haut. Puis la prière de l'après-midi, dans l'après-midi, non. Ensuite, il y a la prière après le coucher du soleil, vers 6-7 heures. Parce qu'en Orient, il faut dire que le soleil se couche plus tôt que chez nous. Hein. Bon, évidemment, ici, c'est différent. Il faut varier selon les pays. Et puis, il y a la prière de la nuit noire, à peu près 1h30 après le coucher du soleil. Donc voilà, ce sont 5 prières rituelles, donc qui sont très courtes, je vous le disais, et toujours en arabe, hein, je vous l'ai dit hier, ça aussi, où qu'on soit, quelle que soit la langue maternelle, c'est la langue arabe qui est demandée pour la prière. Alors, concernant la prière, il y a une particularité, c'est le vendredi à midi, c'est la grande prière hebdomadaire. Donc, bien plus longue que les autres, et en plus assortie d'un sermon. Un sermon prêché par un imam, donc. Alors, le mot imam, le mot imam veut dire être à l'avant d'eux. L'imam, c'est celui, I-M-A-M, hein, c'est celui qui conduit la prière. Traditionnellement, dans les pays musulmans, il n'y avait pas d'institut de formation d'imam, parce que ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Donc, dans l'islam, il y a des hommes de religion, mais il n'y a pas de prêtres. Hein. Donc, les imams étaient choisis par la communauté. On choisissait le plus sage, le plus savant dans les sciences religieuses. Voyez. Alors, ça, c'était la tradition qui perdure dans certains lieux encore. Mais de plus en plus, on a maintenant, dans les pays musulmans, créé des instituts de formation d'imams, parce que le monde se complique beaucoup et que les musulmans sont de plus en plus en contact avec d'autres traditions. Et donc, on pense qu'il est important qu'ils soient formés correctement à l'islamologie. Donc. Alors voilà, le vendredi, donc, il y a cette grande prière hebdomadaire. Alors, l'homélie peut toucher des sujets religieux, mais aussi politiques. Tout est possible dans l'homélie, politique et sociaux, bien entendu. Alors, concernant la fréquentation de la mosquée, il y a quelque chose aussi à dire, c'est que les hommes sont tenus d'y aller, surtout le vendredi, ils peuvent y aller les autres jours pour les 5 prières rituelles, bien sûr. Mais la femme, elle, n'est jamais obligée d'aller à la mosquée. Ça ne lui est jamais obligé. Enfin, elle peut très bien dire ses prières là où elle se trouve, même la prière du vendredi. Mais si elle décide d'y aller, elle est placée dans un espace clos. soit au-dessus, une tribune, soit en bas, enfin en même temps que, au même niveau que les hommes, mais à l'arrière, séparé par un rideau. C'est comme ça. Et puis il y a des moments où, de toute façon, la femme n'a carrément pas le droit d'aller à la mosquée. Quand elle vient d'avoir un enfant, il y a un temps de purification. C'est une reprise de la loi mosaïque, de la loi juive, ça. Hein. Et donc pendant ce temps-là, pendant quelques semaines, elle ne peut pas aller à la mosquée, ou chaque mois aussi, pendant ses règles. La femme est interdite d'aller à la mosquée. Vous voyez, l'islam a beaucoup emprunté au judaïsme, non pas sur le plan doctrinal, mais sur le plan rituel, le ritualisme. Et les notions de pureté et d'impureté légale sont des notions très très fortes. C'est pourquoi les musulmans font des ablutions avant la prière rituelle. C'est pour se purifier. Et voyez là, pense à l'instant, Jésus dans l'évangile, je ne sais plus où, dit que ce qui est impur, ce n'est pas ce qui sort du corps de l'homme, mais de son cœur. Jésus a rectifié, en disant qu'il a accompli la loi, il lui a donné sa plénitude, qui est donc, qui concerne le cœur, l'amour, etc. Et non pas les éléments physiques. Mais bon, les juifs ont gardé les ablutions et ça a été repris par les musulmans. Moi, je connais même des musulmans qui font leurs ablutions juste avant de toucher le Coran, voyez. Voilà. Donc, une très grande importance donnée à la notion de pureté et d'impureté. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la prière. Alors, oui, pardon, il y a la prière, donc on fait appel à des... Enfin, on récite des versets coraniques. Et puis, ça dépend des endroits. Il est possible que des musulmans prolongent leur prière par une prière personnelle. Mais ce que Dieu demande, c'est la prière rituelle. Je vous parlerai aussi du soufisme, mais après... Hein.